la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous partons à Uzès pour la troisième édition d'Uzès Exposition dans l'ancien évêché. Et pour en parler aujourd'hui, nous avons les deux co-commissaires des deux expositions. Alors, je commence par qui ? Par Max Tammenia, qu'on connaît déjà des deux précédentes émissions, pour l'exposition Monticelli, qui est c'est l'année du bicentenaire.
De sa naissance,
de
oui.
De sa naissance, donc elle oui. s'imposait. Et François Melsion, pour la deuxième exposition, Bugatti, une dynastie à part. Et la première question que vont se poser les gens, mais quel est le lien entre les deux ? Et je compte sur vous pour nous expliquer le lien. Alors, il faut d'abord commencer par ce lieu absolument extraordinaire qui est l'ancien évêché. Et dans les deux premières éditions, Marc, il n'y avait que le premier étage. Et cette année, pour les voitures qui prennent beaucoup de place, il y en aura combien en tout ?
Il y aura 9 véhicules.
Donc, ça s'est agrandi. On entre dans la cour de l'évêché. On regarde bien sûr la tour Fenestrelle. On est dans l'ambiance de cette ville d'art et d'histoire. Et en entrant, on tourne à gauche dans la grande salle qui a été complètement rénovée. Alors.
Complètement, de A à Z. Il y aura climatisation, moquette, enfin tout, tout ce qu'on imagine dans une salle muséale.
Et on prend les billets au rez-de-chaussée.
Il y aura une, comment on appelle ça, un deck ou un...
Il y a un Algeco extérieur Algeco. Qui sera habillé quand même plus gaiement qu'un Algeco de chantier.
Vous n'avez pas mis ça dans une Bugatti?
Non, parce que je crois que les propriétaires n'étaient pas complètement d'accord.
Donc voilà, alors on commence par l'exposition donc Bugatti au rez-de-chaussée, 9 voitures. C'est votre passion? Vous êtes un spécialiste?
Alors, c'est vrai que c'est ma passion. Ça a été mon métier pendant 40 ans, puisque moi, j'ai organisé une exposition à Paris qui s'appelle Rétromobile, qui, donc, qui est devenu le leader dans, dans ce petit monde de l'automobile ancienne. Mmh. Et puis, c'est vrai que c'est aussi mon hobby parce que j'ai beaucoup roulé en Bugatti. Mmh. Ça a été toujours ma passion. Pour la petite histoire, je peux vous dire que j'avais une Bugatti de course avec laquelle j'ai fait un petit peu plus de 100 000 km. Voilà. Donc, j'ai roulé beaucoup avec.
Et la question, bien sûr, que chacun se pose, les 9 voitures qui sont exposées roulent, sont en état de marche.
Voilà, toutes les voitures qui sont présentées sont des voitures qui sont des vraies automobiles. C'est-à-dire qu'elles peuvent rouler sur la route et d'ailleurs, elles sont toutes en état, si vous voulez, si on voulait, on pourrait les mettre en route, mais je crois que pour des raisons de sécurité, on va éviter.
Ça va être marqué en gros interdit, oui, voilà. Bien sûr. Parce que ce sont des prêts. Hein, cette idée des prêts, c'est aussi très important, Marc, pour les peintures. Puisque cette exposition, ces expositions sont possibles grâce à votre...
Grâce à notre réseau voilà. Commun et la confiance. Mais comme disait François, ça fait un moment qu'il est dans ce métier et moi aussi. Je fête cette année ma 50e année de boulot. Alors vous voyez quand même...
Il n'y a pas de retraite si je comprends bien.
Non, mais de boulot là c'est du bénévolat. L'un comme l'autre c'est du bénévolat pour monter cette expo, comme chaque année d'ailleurs, parce que c'est une parfaite entente avec Jean-Luc Chapon, le maire, qui a quand même remonté cette ville et en a fait une ville majestueuse. Et donc, on a la chance d'être suivi par tous ces collectionneurs, grands collectionneurs, parce que aussi bien les voitures, enfin les Bugatti, c'est assez exceptionnel, que les bronzes de Rembrandt, c'est pareil, puisque vous allez avoir des bronzes qui ont appartenu à Delon, vous allez avoir...
Des meubles
qui ont appartenu à Delon.
Vous avez travaillé depuis longtemps pour contacter ces personnes qui vous ont fait confiance.
Dont, par exemple, le père Carlo, qui fut lui le départ de cette dynastie, l'ébéniste, eh bien, il y aura une chaise, ce qu'on appelle la chaise Cobra, que vous avez photographié dessus. Le pendant est à Orsay. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses...
Ce n'est pas une petite exposition. Uzès est vraiment, devient, pour cette troisième édition, vraiment une référence et attire du monde. Et vous avez raison de le souligner, c'est une volonté aussi de la mairie. Et Vous avez eu beaucoup de succès l'an dernier. Je ne sais plus combien d'entrées vous l'avez dit.
Bah, chaque année, alors cette année, on espère plus grâce aux voitures, parce que les voitures créent
une autre clientèle.
Oui, mais en même temps, ça attire aussi un public qui est plus large, plus demandeur aujourd'hui. C'est un vrai...
Plus de vacanciers, peut-être.
Oui, c'est bien, mais on avait environ 12 000 entrées en 4 mois les deux premières années, ce qui est pas mal, parce que première expo, c'est pas rien, parce que
c'est
la première
expo,
c'était un pari, mais Jean-Luc Chapon nous a bien suivis, moi, je suis depuis 2 ans,
et pour des prix très, très raisonnables, et puis je vois aussi que tous les deux, vous êtes bénévole, mais vous assurez des visites guidées.
Complètement.
Voilà, bravo à vous. Ouais. Hein. Je vois qu'il y en a à peu près 5 ou 6 de tout l'été, puisque je n'ai pas dit, honte à moi, que cette exposition a commencé le 22 juin et dure jusqu'au 13 octobre. Tous les jours, sauf le lundi et le mardi.
Absolument.
Et donc, vous voyez, vous renseignez à l'Office de tourisme pour avoir les dates des visites guidées par Marc Stamegna pour Monticelli et François Melsion pour Bugatti.
Voilà, et Marc en fera aussi un petit peu pour Bugatti, surtout pour les bronzes, parce qu'il connaît bien le sujet.
Voilà. Les bronzes sont, comme je vous disais, ça se rapproche tellement de la peinture que c'est un sujet que je connais...
Un petit peu.
Voilà, un petit peu, dirions-nous. Un petit peu, c'est tout.
Il faut jamais aller loin. Alors, nous allons démarrer de commun accord, donc par... non pas dans l'ordre chronologique, puisque Bugatti, c'est une dynastie avec le papa, Carlo, mais on en parlera après. On commence par Ettore Bugatti, qui a vécu de 1881 à 1947, qui est vraiment le pionnier de la Bugatti.
Ah oui, c'est celui qui a inventé la Bugatti, puisqu'il a commencé très jeune. Bugatti est rentré au début, en fait c'est amusant parce qu'au début il était destiné à plutôt faire une école des beaux-arts, et puis son frère également, dont on parlera plus tard, Rembrandt, a fait également une école des beaux-arts. Et puis je pense que Ettore s'est aperçu assez rapidement que son frère était meilleur que lui, et lui était très attiré par le côté mécanique. Donc c'est un autodidacte complet. Il a commencé à rentrer comme un apprenti à l'âge de 17 ans, 18 ans, 19 ans. Il a fabriqué son premier véhicule. Et puis après, il est passé dans différentes firmes en Alsace et puis en Allemagne à cette époque-là. Et pour finir en 1909, où il a créé sa propre usine à Molsheim, où il est resté d'ailleurs toute sa vie. En tout cas, l'usine est restée là et l'usine existe encore à Molsheim, en Alsace. Et là, il a créé sa marque et il voulait faire la plus belle voiture du monde. C'était son but, c'était de faire mieux que tout le monde. Il avait un grand slogan, il disait « rien n'est trop beau, rien n'est trop cher ».
Ah oui. Donc ça s'adressait
à une clientèle et c'était un personnage qui avait beaucoup d'entrejambes, qui était quelqu'un qui avait un abord très facile. Il s'était fait ami avec les grands de ce monde, comme on disait à l'époque, notamment le roi de Roumanie, le Léopold de Belgique. Et donc avec les rois, il entretenait une certaine intimité et c'était des clients. Donc,
et
c'était
puis,
des clients qui étaient meneurs.
Oui, ils pouvaient aller très loin dans la dépense, en fait.
Ils pouvaient aller,
satisfaire
alors,
les
oui,
demandes.
Oui, ils pouvaient aller loin dans la dépense. Il a jamais vraiment gagné beaucoup d'argent. Il a toujours jonglé un peu avec les banquiers, avec les mécènes, etc. Mais il a toujours fait des choses de grande qualité. Il n'a jamais eu la tendance à faire quelque chose de médiocre pour gagner un peu plus d'argent.
Mais je suppose qu'il n'y a pas eu énormément de production.
Non, on a calculé à peu près, il y a eu à peu près 7000 véhicules fabriqués, ce qui est très peu.
Donc, si vous, il y en a 9 ici, à cette exposition.
Oui, alors on estime que sur les 7000 véhicules fabriqués, il en resterait environ entre 1500 et 2000 existants, ce qui est énorme.
Beaucoup,
ce qui veut donc dire que ça a de tout temps été un objet qu'on respectait et qu'on ne jetait pas.
Voilà.
Et là où la majorité des Bugatti ont disparu, c'est à la fois pendant la guerre de 40, pendant les bombardements ou des choses comme ça, et puis au début des années 50, où ces voitures étaient assez chères d'entretien et où ce n'était pas la mode du luxe, on était plutôt à la voiture populaire. C'était des voitures qui étaient chères, qui consommaient beaucoup, qui étaient un entretien assez, qu'il fallait faire quand même régulièrement. Donc, il y a eu un petit peu de casse à ce moment-là, et puis on récupérait les métaux. Mais après, tout de suite, à la fin des années 50, début 60, il y a des gens qui sont aperçus que c'était des objets intéressants, et notamment les Américains. Et les Américains ont acheté beaucoup de choses.
Et vous, elle vous vient d'où cette passion pour Bugatti?
Ben moi, passion pour Bugatti, elle me vient que j'avais acheté ma première voiture, j'avais 15 ans, qui était une Citroën, qui n'avait rien à voir avec une Bugatti, et je me suis arrêté chez un garçon avec qui j'ai ensuite travaillé toute ma vie, c'est assez amusant, et qui était en train de bricoler une Bugatti. Et quand j'ai vu cet objet, j'ai dit, ça, un jour, j'en aurai une. Et ça, ben, ça a duré un petit moment, et puis un jour, j'en ai acheté une. J'ai acheté ma première Bugatti en 1981. Voilà.
Alors, on a parlé d'œuvres d'art, esthétiquement, mais aussi mécaniquement.
Oui, ce sont des voitures qui se différencient des autres, puisque Bugatti voulait que ça soit beau aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Mmh. C'est-à-dire, quand vous levez un capot de Bugatti, c'est beau. C'est très design, c'est très épuré. En plus, là, malheureusement, pendant une exposition, on ne peut pas, mais la sonorité des moteurs de Bugatti, c'est beau, c'est noble, c'est, tout est beau. Alors, c'est vrai que j'en parle parce que j'adore ça.
Mais est-ce que les capots seront ouverts ou...
on pourra, si on veut, peut-être que non, mais peut-être qu'on mettra effectivement un capot ouvert de façon à montrer au moins sur un des véhicules la mécanique. Mais,
parce que je pense qu'il y a tout de même des passionnés qui vont venir. Je ne sais pas s'ils viendront voir Monticelli ou Bugatti, mais ceux qui viennent
les
pour
Bugatti. Oui, je pense que de toute façon les capots des tableaux ils sont ouverts, donc c'est pas de problème. Mais sur demande, c'est sûr que pendant les expositions guidées, on ouvrira les capots, bien sûr.
Et puis ce terme de Bugatti, c'est tout de même important de savoir que ce sont aussi des artistes, hein, et que le père et le frère sont des artistes. Et donc c'est une belle façon, je trouve, d'ouvrir un petit peu la curiosité des personnes. Ils vont venir pour des voitures peut-être, mais ils monteront au premier étage voir les autres. L'autre exposition avec Bugatti. Les couleurs des voitures, vous les connaissez, bien sûr, vous avez travaillé sur qui sont exposées. Comment vous les avez choisies? Ça dépend des prêteurs, ça dépend...
Alors, je n'ai pas choisi les voitures en fonction de la couleur, mais plutôt en fonction des carrosseries qu'elles avaient et de leur histoire. Parce que je pense que Bugatti avait la chance d'avoir vendu donc, certaines voitures mythiques. Il y a eu notamment une Bugatti, je pense que les gens qui connaissent un peu Bugatti vont tout de suite comprendre, le Type 35, qui est une voiture qui est sortie en 1924, qui est la voiture de course qui a gagné le plus de courses possibles de toute l'histoire de l'automobile.
Donc c'est son centenaire.
Et en fait, son centenaire. Donc ça, c'est une voiture qui a un dessin et qui a été... si vous voulez, c'est un peu l'archétype de la voiture de course des années 20 et 30. Alors donc ça, évidemment, il en fallait une. J'avais la chance d'avoir un de mes amis qui a une des voitures qui a appartenu au roi Léopold de Belgique. Donc celle-là, je l'ai prise. Elle est noire et jaune. Nous avons également... Il y a une voiture que je voulais avoir aussi, parce que Bugatti avait une autre passion, c'était l'équitation. Il était passionné de chevaux. Il dessinait d'ailleurs ses selles, il dessinait ses éperons, il dessinait ses bottes, il faisait tout. Et il a fait des voitures qu'on appelle des fiacres, qui avaient une carrosserie qui rappelle un peu les fiacres. Et je voulais avoir une de ces voitures, donc il y aura une Bugatti type 40 avec une carrosserie fiacre, parce que pour moi, c'est très emblématique de Bugatti. Et c'est le seul constructeur qui ait fait des carrosseries comme ça.
Ça se voit très nettement au niveau des, je ne sais pas si on appelle ça des phares ou je sais comment ça s'appelle, des luminaires, mais ça fait penser un peu justement au fiacre.
Oui, absolument.
Donc, il y a cette allusion aussi à cette époque. C'est tout de même très, très représentatif d'une époque et puis d'une certaine, comme vous disiez, d'une certaine clientèle. C'est des objets de luxe, mais c'est aussi des objets d'art.
Oui, et en plus, ce sont des objets très efficaces. Puisqu'il faut bien vous dire que dans les débuts, fin des années 20, 1927-28, une Bugatti roulait à 200 à l'heure.
Ah oui, pour l'époque, c'était pas mal. Hein.
Pour freiner, c'était plus embêtant.
Ça freinait pas mal, mais il y avait moins de monde dans la rue.
Oui, voilà. Et donc, quand vous avez fait vos milliers de kilomètres en Bugatti, vous avez dû vous...
Oui, et j'arrivais quand même à freiner. D'ailleurs, de toute façon, un jour, je crois qu'il y a quelqu'un qui avait dit à Monsieur Bugatti, votre voiture ne freine pas bien. Et il avait répondu, mes voitures ne sont pas faites pour freiner, elles sont faites pour rouler.
Mais vous disiez, bon, c'était pas la même époque non plus.
Non.
Et elle roulait aussi sur circuit, non?
C'est justement, on parlait de type 35, c'était le coup de génie qu'il a eu, c'est qu'il a vendu une voiture de course et il l'a vendue à des particuliers. Donc les particuliers pouvaient aller à la course, aller faire les 1000 ou aller sur n'importe quel circuit par la route, ils faisaient leur course. Et ils pouvaient, s'ils n'avaient pas cassé, ils rentraient à la maison avec la voiture. Et il avait eu un autre coup de génie. Ça lui a permis de gagner beaucoup de courses, puisqu'il a organisé des courses uniquement réservées aux Bugatti. Donc le premier était forcément une Bugatti, le deuxième aussi.
Comme ça, il n'y avait pas de problème de jalousie.
Et ça permettait, dans le et ça permettait surtout dans le palmarès de dire « Bugatti a encore vaincu la course ».
Voilà.
Et
les toujours, trois premières, c'était des Bugatti.
Il était malin. Voilà. Donc en vous écoutant, François, on se dit « vous connaissez plein de choses ». Il y a six visites dont vous assurez le guidage, on dirait, oui. Le 28 juin, le 4 juillet, le 18 juillet, le 15 août, le 19 septembre, le 2 octobre à 18h. Je suis sûre que le bouche à oreille va circuler et que vous aurez beaucoup de monde et vous pourrez raconter tout en détail.
Bah, je les attends de pied ferme.
Comme Marc qui attend aussi nos visiteurs pour Monticelli. Mais avant, on va monter au premier étage, puisque le premier étage a été également agrandi.
C'était les anciennes archives du GES qui ont été transférées dans un magnifique local aussi, qui est à côté de la mairie. Et ces salles ont été réhabilitées. Vous verrez, c'est extraordinaire. Oui. Il y a des cheminées 17e.
La troisième édition va être encore plus belle déjà dans ce lieu, dans cet écrin.
Je crois que ça va être difficile de continuer à monter. Mais bon, et là, vous allez avoir... Ben, on va commencer par Rembrandt.
Je vous propose une pause qui assure un peu le lien. Monticelli était passionné de Gounod et on a choisi un court extrait, bien sûr, de l'opéra Faust et Marguerite. Alors, sur Radio Alliance Plus, nos deux invités, Marc Stalmenia et François Melsion, se faisaient la remarque que s'il y a un point commun en dehors de tout, c'est qu'ils sont tous italiens, que ce soit la dynastie Bugatti ou Monticelli. Alors, Monticelli, c'est son bicentenaire. Voilà, nous sommes au premier étage et on vous laisse nous guider dans cette très belle exposition en rappelant que c'est le bicentenaire donc, de Monticelli.
Bien sûr, le bicentenaire de sa naissance. Monticelli est né donc en 1824, il est mort en 1886. Et là, vous allez avoir plus de 50 tableaux d'ailleurs, parce que je me suis rendu compte qu'il y en avait un peu plus de 50, et des tableaux historiques dans l'œuvre de Monticelli. En l'occurrence, vous avez ça paraît prétentieux, mais on a eu la chance de pouvoir la trouver, une des trois plus belles natures mortes du monde de Monticelli, dont il y en a une à Orsay, une à l'Art Institute à Chicago, et la troisième va être exposée à Uzès. Donc c'est déjà pas mal. Vous aurez aussi des marines, ce qui est rare. Marines qui influencèrent Van Gogh, parce que si on connaît un peu, et si on s'intéresse un peu à l'histoire de l'art...
Van Gogh l'admirait profondément.
Van Gogh, il a écrit plus de 200 lettres à son frère Théo, à sa sœur Wilhelmina, à Gauguin, Gauguin n'aimait pas trop la peinture de Monticelli parce qu'ils étaient quand même très opposés dans la technique, dans la façon de peindre. Mais à Signac, qui était un grand ami de la famille et qui adorait tout ça, de la famille Van Gogh, et Vincent a été fasciné et Théo a adoré aussi la peinture de Monticelli puisqu'il a acheté plus de 30 tableaux du vivant de Monticelli. Et ces 30 tableaux, on peut les voir à la Fondation Van Gogh, Rijksmuseum, avec la collection que la femme de Théo a léguée, c'est-à-dire qu'elle avait légué plus de 200 tableaux de Van Gogh et la collection de Monticelli. Mmh. Et quelques Signac aussi, c'est-à-dire les tableaux que son mari avait adorés. Donc, vous voyez, là, c'est un véritable passage dans l'histoire de l'art, parce qu'on arrive jusqu'à Van Gogh.
Mais je me souviens que dans la première édition, il y avait déjà des tableaux de Monticelli.
Complètement.
Hein, puisque c'était l'histoire de l'art, hein, que le thème de la première édition.
Eh bien, la première édition, c'était l'histoire de l'art, mais c'était surtout les artistes importants qui avaient travaillé dans le Midi de la France, où malheureusement, comme Picasso, il est enterré à Aix, comme... Renoir, il y a un musée à Cagnes, il y avait...
Le Sud attirait les peintres.
Et Marquet venait prendre le bateau à Marseille pour aller en Algérie. Donc, et oui, et puis n'oublions pas que l'époque fauve s'est créée à l'Estac, à Marseille, réellement. Après, s'est éparpillée, mais je veux dire, vous savez, la lumière, c'est quand même une lumière magique, hein, ces cieux cristallins, cette lumière et cette tranquillité. Parce qu'un jour, on m'avait dit, mais pourquoi tous ces grands artistes n'ont pas fait Marseille? Ben non, parce que Marseille, c'était une ville
industrielle,
ça brouillait de monde. Ouais. Qu'est-ce qu'ils allaient à l'Estac ou ils allaient à Cassis et j'ai signé qu'il allait à Saint-Tropez, mais on est au 19e, donc vous imaginez la tranquillité et le bonheur.
Oui, voilà. Alors que c'est plus tout à fait la même chose.
Voilà, complètement. Oui. Nous avons, si vous permettez, en montant l'escalier, nous avons oublié, pardon, de parler quand même de Rembrandt. Qui fut le...
Rembrandt Bugatti,
qui fut le frère, le jeune frère de Hector, celui qui a créé les voitures. Et Rembrandt a été quand même aussi quelqu'un de très important, et on le reconnaît réellement dans l'histoire de l'art, c'est qu'il a rompu avec des artistes précédents comme Barry, comme Maine, qui étaient des artistes très classiques, qui représentaient exactement au muscle près ou...
Très scolaire, je dirais presque.
Oui, oui, mais c'était une époque, c'était normal, oui. Puisque quand
c'est
Barry,
comme ça qu'on en apprenait, en fait.
Quand Barry faisait ses bronzes, eh bien, on était encore dans la peinture très, très académique, très, très photographique. Et donc, Bugatti a complètement rompu avec cette histoire en créant des bronzes qui sont... Et on considère d'ailleurs que Bugatti et Degas sont ceux qui ont créé l'impressionnisme en sculpture.
Oui.
Oui. Degas, c'est différent. Il a fait des choses exceptionnelles, les danseuses. Mais c'est parce qu'il perdait un peu la vue, donc il arrivait moins à peindre, et c'était tactile pour lui.
Alors que la sculpture de Rembrandt, c'est vraiment...
Lui, c'est dès le départ, il a créé une sculpture. Alors, il avait un truc extraordinaire. Ce qu'ont eu plusieurs artistes, d'ailleurs, c'est qu'ils passaient parfois 15 jours, un mois, assis devant une cage. Au Jambert des Plantes à Paris ou à Anvers. Et puis d'un coup, il rentrait chez lui et il faisait pas des boches, toc toc, il prenait de la terre. Et c'est pour ça que vous verrez, en faisant le tour de l'expo, en faisant le tour de l'expo, vous verrez les animaux, on a sur certains encore les empreintes dans la terre de ses doigts. C'est pour ça
c'est
que c'est ce
magique.
Côté.
Moi, je vois Mais on voit cette préparation.
On cligne un peu des yeux et le puma avance. Voyez, on imagine en train d'avancer.
Il y a cette photo assez symbolique de vous deux devant une Bugatti et avec le puma de Rembrandt Bugatti. Donc ça fait le lien vraiment, si on a encore un doute, sur la légitimité de cette exposition qui mêle les trois Bugatti et Monticelli, qui ne sont pas de la même époque.
Non. Et si vous permettez, je vais répondre. Enfin, vous avez été étonné tout à l'heure quand vous avez dit Rembrandt, c'est un prénom un peu... Alors c'est drôle parce que c'est son parrain qui était Segantini, qui était un impressionniste italien, qui a, le jour où Rembrandt est né, il a dit, et alors il a deux prénoms qui sont très difficiles à porter, il a dit, on va l'appeler, et ça, comme sa sœur, la sœur de son parrain, adorait tout ça, l'art, et il a dit, on va l'appeler Rembrandt Hannibal.
Alors, oui,
ce fut quand même que... il fallait qu'il réussisse, hein, ce fut une obligation pour
Mais
lui.
Il est mort très jeune, il s'est suicidé. Donc c'était tellement lourd à porter que...
Non, son histoire elle est simple, c'est qu'il était d'abord à fleur de peau, c'était un véritable artiste, et comme il était le plus grand zoo d'Europe, était à Anvers, donc il est allé à Anvers pour travailler, pour étudier les animaux. La guerre de 14 a démarré, et lui n'avait pas entré en France, et il est rentré dans la Croix-Rouge. Et vous imaginez la guerre de 14, voilà. Alors déjà, ça l'a sérieusement perturbé, mais déstabilisé. Et puis quand il est rentré, d'abord il buvait énormément et il s'est plus senti. Il y a eu quelque chose. Après, il y a eu des scissions un tout petit peu familiales, mais c'est pas ça. Et d'ailleurs, la dernière lettre qu'il a écrite à son frère, je lui ai dit hier, j'ai bu comme un évier. Et puis il s'est suicidé, vous voyez. Donc c'était quelqu'un, mais c'est pas le premier. Hein. Van Gogh s'est suicidé. Tous les artistes. Après, l'alcool les a un peu aidés, parce qu'ils étaient quand même
c'était
toujours...
C'était l'époque aussi, puis c'était peut-être pas très bien distillé.
Van Gogh, c'était l'absinthe, lui c'était le vin rouge, mais enfin c'était pareil, le vin c'était pas le meilleur.
Alors son frère Ettore et puis son père, donc Carlo, ont vécu beaucoup plus longtemps, et on n'a pas trop parlé de Carlo, qui est le géniteur.
Je t'en prie,
vous
vas-y. Mon ami.
Alors Carlo, c'est effectivement le géniteur. Alors Carlo, c'est un ébéniste, qui a excellé dans deux univers un petit peu différents, puisqu'il y a eu une période qu'on va qualifier de japonisante, avec une période en parchemin, avec des belles couleurs, quelquefois des verts d'eau, des verts pâles, avec des dessins ornés d'insectes, de libellules, de choses comme ça. Et puis, il est passé après à une autre période qu'on a qualifiée d'orientaliste. Alors, il y a une anecdote qui est assez amusante, puisqu'un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit « Mais pourquoi faire cette œuvre un petit peu orientaliste ?» Il dit « Ce n'est pas une œuvre orientaliste, c'est une œuvre qui m'est propre à moi.
» Oui, mais bon, il y a toutes les influences dont on s'imprègne.
Mais comme vient de dire François, ce côté japonisant, c'était quand même une grande mode. Regardez, Van Gogh a été collectionneur de gravures japonaises. C'était vraiment le nouveau monde. Enfin, entre guillemets, pour eux.
Et oui, il faut se replacer à l'époque, et c'est vrai qu'on voit dans...
Et Carlo, donc, il a fait ses meubles, donc, dont on va présenter plusieurs exemplaires, dont exemplaire exceptionnel, qui est la fameuse chaise cobra, dont on trouve un autre exemplaire au musée d'Orsay.
Oui, vous l'avez dit.
Et également, Carlo, on a eu la chance, avec Marc, de trouver de l'argenterie, puisqu'il a fait également de l'argenterie, il a fait de l'orfèvrerie. Carlo a même fabriqué des instruments de musique. Donc vous voyez qu'on est tous, on est vraiment dans un univers de créateurs, de gens qui touchaient à tout. Puisque je vais revenir sur Ettore, un jour, il a fabriqué une machine à faire des pâtes.
Ettore italien, d'origine.
Merci à tous les deux de cette passion, donc de Monticelli, spécialiste Marc, merci à vous. François, spécialiste éminent des Bugatti, des voitures Bugatti, mais pas que. On vous a entendu parler avec beaucoup de joie, de passion. Merci à vous deux et très belle exposition. Donc je rappelle, du 22 juin au 13 octobre à l'évêché, à l'ancien évêché d'Uzès. Merci à vous.
Merci pour votre accueil.